Disclaimer, l'audio que vous allez entendre a une qualité qui est horrible. En fait, je testais mon nouveau micro Rode Lavalier que je vais renvoyer. On entend tous mes bruits de souffle, etc. J'ai essayé au maximum de réduire le bruit avec Audacity. Honnêtement, c'est pas fou. Donc je suis désolée, baissez un petit peu le son au début. Je vous souhaite une bonne écoute et je m'excuse d'avance. Je vais reprendre mon Rode sur pied dès que j'aurai réparé son problème. Je dois le renvoyer, il a un défaut de fabrication. Voilà les soucis de la technologie, donc bonne écoute et bisous. Hello, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast qui va être en deux épisodes. On va parler de la flexibilité de pensée, de la nuance dans la pensée, de l'esprit critique, de la vision binaire que certains ont du monde, et on va essayer d'explorer un petit peu voilà, plein de choses pour se motiver à ne pas être dans ce prisme-là la plupart du temps, parce que c'est très dangereux. Et moi, c'est, je pense, la chose qui m'attriste le plus quand je parle avec quelqu'un. Vous savez, souvent on me demande ce que j'aime, ce que j'aime pas. J'aime énormément de choses dans la vie. Dans ce que j'aime pas, il y a les inégalités sociales, etc. Et je pense vraiment dans mon top 3, il y a le manque de nuances dans un avis, dans une vision. C'est horrible de parler avec quelqu'un qui n'a pas de nuances, qui n'a pas d'esprit critique et en fait qui n'a pas d'humilité et qui n'a pas vocation à faire évoluer sa pensée. C'est pour ça que je débat peu avec les gens, même sur Instagram, quand en fait je vois que la personne, elle n'a pas vocation en fait à avoir un véritable échange, parce que moi je suis dans une posture d'humilité. Je coupe court parce que en fait on n'a pas de temps à perdre avec ce type de personnes. Bref, en tout cas voilà, moi c'est quelque chose que j'ai souvent observé, le manque d'esprit critique. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça, et dans le second épisode on parlera vraiment de la vision binaire, dichotomique un peu de la vie et du tout ou rien. Et finalement ce tout ou rien dans nos croyances, dans nos avis, dans nos opinions, souvent en plus on vient le calquer à notre vie et on pense qu'on doit faire tout ou rien dans nos habitudes, dans nos efforts, etc. Et là c'est encore pire parce que du coup on se fait du mal à nous-mêmes. Bref. Pourquoi une pensée flexible? Pourquoi une pensée raisonnée? Pourquoi une pensée critique et pas une pensée rigide? Forcément, bah, en favorisant une dynamique d'opinion saine, informée, on va contribuer pour moi à une société qui est plus tolérante, plus inclusive et intellectuellement dynamique pour vous et pour les autres. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans T-Talk, parce que vous savez que moi, mon ambition, c'est qu'on s'élève, c'est qu'on soit voilà, doté d'une plus grande intelligence, qu'elle soit palpable, concrète, ou d'une plus grande intelligence émotionnelle. Et pour ça, pour comprendre l'autre, pour se comprendre soi-même, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, on a besoin justement d'avoir cette pensée flexible. C'est essentiel de reconnaître que nos opinions ne sont pas des entités fixes, mais peuvent évoluer, être affinées grâce à un engagement actif de notre part, bien sûr, et d'exposition à diverses perspectives. Maintenant, adopter ces principes, ça va nous permettre aussi de naviguer dans un monde qui est très complexe. Je vous l'accorde, c'est difficile de façonner sa pensée. Et la dynamique pour moi d'opinion, ça permet déjà d'agir nous avec plus de clarté, de comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais aussi, comme je le disais, avec plus de sagesse, d'empathie. Pour moi, ça conduit vraiment à une société qui est plus éclairée, plus harmonieuse. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On a Goethe, et je ne sais pas si ça se dit Goethe ou Goethe, mais franchement, c'est les noms, je ne sais pas. Goethe, vous me direz. Qui dit « Le comportement est un miroir dans lequel chacun montre son image ». Notre état d'esprit, finalement, et notre pensée décrivent pour moi vraiment notre personnalité. Et à mesure qu'on vieillit et qu'on acquiert plus d'expérience, on génère une tendance à avoir toujours raison. Je ne sais pas si vous le remarquez autour de vous, surtout chez nos parents, grands-parents. On commence à éviter les idées, les suggestions des autres et on est un peu dans le délire de « je suis comme ça, point ». Le nombre de fois où des personnes de ma famille m'ont dit « Non, mais en fait, ça y est, j'ai 60 ans, vous n'allez pas me changer. Moi, c'est comme ça que je pense, point. » Et même si c'est incompréhensible, même si c'est faux, je pense comme ça, point. Bref, cette mentalité ralentit tellement notre apprentissage, mais elle conduit également, pour moi, à nos échecs, en fait, à notre chute, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est Albert Einstein qui disait, une fois que vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Et pour moi, c'est tellement réel. C'est si on ne prend pas les avis des autres, si on ne complexifie pas notre pensée, etc., mais forcément, on va refaire les mêmes échecs encore et encore, et on va pas, en fait, enrichir ce qu'on pourrait s'apporter à soi-même. Et là est le premier problème. Déjà, moi, j'aime bien partir d'un postulat et d'une affirmation, c'est que tout dans le monde évolue. Tout est en expansion, même l'univers n'est pas figé, l'univers est en expansion. On a des étoiles qui meurent, qui naissent, des planètes qui... Voilà, on a tellement de choses en fait qui évoluent qu'on ne peut pas penser que nos pensées, nos opinions, etc., ne sont pas des choses mouvantes. Tout évolue, nos relations, tout ce qui constitue en fait le monde évolue et tout bouge. Il n'y a rien de flexible, il n'y a rien de rigide, tout est flexible justement. Que ça soit dans la création, dans les êtres vivants, dans les êtres humains, dans les plantes, dans, comme je disais, l'astronomie, la physique, enfin, tout est sujet à évoluer. C'est comme en mathématiques, je sais que bon, moi je suis pas une professionnelle, mais nous on fait, il me semble, de la géométrie euclidienne, si je dis pas de bêtises, et on part de postulat. C'est-à-dire que on se base sur, je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Là, on va essayer de simplifier avec un exemple, genre bidon. A, c'est A, B, c'est B, C, c'est C. Et donc, du coup, non, même pas, on va dire 1, c'est 1, 2, c'est 2, 3, c'est 3. Et donc, on va dire 1 plus 2, ça fait 3, 2 plus 3, ça fait 5, parce qu'on est parti du postulat que 1 égale une unité, 2 égale deux unités, etc. Maintenant, moi, si je viens et que je te dis, OK, on va faire d'autres postulats, 2 c'est 5, 3 c'est 8, bah quand tu vas faire 2 plus 3, ça va pas faire 5, ça va faire 8 et 5 du coup. Ça va faire 13. Donc voilà, faut savoir que tout se base sur un prisme idéologique et à partir de celui-ci, on va développer une pensée, développer des conclusions, OK? Donc ça c'est la première chose. Maintenant, c'est quoi la pensée rigide? Concrètement, c'est un comportement humain donc qui est courant hein, et qui va imposer en fait des schémas de pensée rigides qui vont être influencés par nos expériences passées, donc de manière empirique. Hein, on va se baser sur des choses et puis on va en tirer des conclusions. Et ils peuvent également être perpétués par ce qu'on va appeler bah, des biais cognitifs et des normes culturelles. On va voir d'où ça vient. On va parler de sociologie, de psychologie, en voilà. En étant non exhaustif, mais pour vous donner une idée et pour vous motiver aussi à comprendre ça. Par exemple, on a certains systèmes de croyances, des attentes sociétales qui vont parfois décourager les individus, par exemple, à remettre en question l'autorité, qu'elle soit parentale, qu'elle soit gouvernementale, etc., remettre en question le statu quo de ces derniers, et ça va conduire à une façon de se comporter de manière rigide. On le voit dans certains pays, c'est culturel hein, d'être soumis même à des choses qui sont injustes. Dans certaines familles, dans certaines normes culturelles, c'est vraiment mal vu de s'opposer à ses parents, même si ils n'ont pas raison, même s'ils ont tort. On a toutes les attentes sociétales dans lesquelles, voilà, on doit se marier, on doit avoir des enfants, on doit faire ci, on doit faire ça, et on remet même pas en question, on se pose même pas la question. Moi, ça m'arrive tout le temps. Quand les gens me disent oui, je veux un enfant, ben en fait, je demande pourquoi. Et les gens ne savent même pas pourquoi. Bien sûr, on est des êtres humains, il y a la reproduction, il y a l'instinct de survie, je suis d'accord. Mais posez-vous la question, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que c'est juste parce qu'on attend ça de vous et finalement, vous n'avez pas envie dans l'immédiat. Enfin, il y a plein de réponses possibles et il n'y en a aucune hein, qui est mieux qu'une autre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, on est très normé. Et ça, c'est pour moi, c'est tellement une croyance limitante. C'est tellement quelque chose qui nous détruit sur le long terme quand on veut entreprendre, quand on veut faire des projets, quand on veut se réorienter ou que sais-je. Bah, c'est comme par exemple la croyance que le divorce est un échec. Ça, c'est un truc de fou. Le nombre de gens qui restent dans des mariages qui les rendent pas heureux, qui les tirent vers le bas et tout, juste voilà, par cette pensée limitante, rigide, au lieu de justement nuancer. Et bref. Donc la socialisation, c'est l'un des principaux moyens par lesquels la culture influence la formation de l'opinion, pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours d'SES. En grandissant, forcément, que ce soit à l'âge donc quand on est en enfance, à l'âge de l'adolescence, jeune adulte, etc., forcément, on est exposé à une multitude d'institutions sociales, la famille, les écoles, les organisations religieuses, les médias et plein d'autres, nos groupes de pairs. Et ça va contribuer à façonner nos opinions, notamment l'école, hein, dans une très grande mesure. Et c'est pour ça que l'école a toujours été un outil, hein, de propagande dans les pays. Donc, par exemple, un enfant qui est élevé dans un foyer très conservateur, forcément, il est plus susceptible d'adopter des croyances, des valeurs conservatrices. Un enfant qui grandit dans un environnement libéral, il peut pencher vers des opinions plus progressistes. Enfin, voilà, on sait comment ça marche. Et ce processus de socialisation, il peut être observé en observant la façon dont différentes cultures perçoivent des sujets controversés, tels que les rôles de genre, la religion, les idéologies politiques, etc. On voit que on prend une personne dans un pays donné, une autre personne dans un pays donné, de classes sociales différentes, voilà. Et en fait, on va voir qu'ils n'ont pas du tout les mêmes opinions, mais que ces opinions-là sont similaires à des gens avec leurs mêmes critères, leurs mêmes conditions, etc. Donc, on n'est pas vraiment le fruit de nos pensées, on est plus le fruit de tout ça, de cette socialisation, qu'elle soit primaire, secondaire, voilà. Pas que ça, on est aussi le contenu que nous consommons. Donc, qu'il s'agisse d'actualités, de films, de publications sur les réseaux sociaux, ça impacte forcément nos croyances et nos attitudes. Dans le livre de David Colomb, que je vous conseille à 1000%, La manipulation de masse, on voit comment, par exemple, des gens en fait, qui ont été un peu les pères fondateurs des relations publiques, de la communication de crise, du marketing et tout ça, ont justement façonné des dizaines de sujets comme la guerre, hein, par exemple, comment ils ont réussi à vendre la guerre aux Américains, par justement des films, par des publicités, par de la propagande douce, hein, finalement. Du coup, ça, là, on est vraiment dans la manipulation de masse, donc on est dans la volonté de faire ça, mais tout ce qu'on consomme, ça nous influence forcément. Les médias, ils ont le pouvoir de façonner l'opinion publique en présentant justement les problèmes d'une manière particulière. On le voit, c'est pour ça qu'il y a des personnes dans des régions reculées qui vont être énormément racistes parce que justement on manipule en fait leur façon de penser et comme ils n'ont pas connaissance de la chose, ils sont absorbés dans cette façon de présenter ça par les médias. Donc les médias présentent, hein, des informations de manière sélective, en diffusant parfois de la désinformation. Quand on est sur Twitter, par exemple, maintenant il y a une option de note qui peut permettre justement de contre-argumenter les fake news. Donc ça c'est cool. Il y a une étude de cas sur l'influence des médias et sur la formation de l'opinion, où on voit, par exemple, ça je pense que vous en avez tous entendu parler, comment Facebook a manipulé et a orienté l'élection, je sais plus c'était laquelle, présidentielle aux États-Unis. Bref, d'ailleurs c'est un des derniers chapitres du livre de David Colomb. Justement, c'est Facebook parce qu'au début c'était des personnes, c'était des groupes, c'était des cabinets et tout. Et maintenant, clairement, les réseaux sociaux ont le pouvoir d'influencer énormément de choses, notamment des électeurs. Un autre aspect important à considérer, c'est l'influence de nos groupes de pairs et des réseaux sociaux. Avec nos groupes de pairs, les humains, c'est des créatures sociales, on ne peut pas le nier, et on a tendance à rechercher la validation et l'acceptation de nos pairs, donc on s'aligne souvent sur leurs opinions, et du coup sur les opinions de nos cercles sociaux, parce que s'écarter de la norme, ça peut conduire à l'exclusion sociale ou à des réactions négatives, et nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas déplaire, nous n'aimons pas être exclus, c'est normal, c'est socialement, c'est notre construction sociale, elle est comme ça. Et ce phénomène, il est connu sous le nom de pensée de groupe, et forcément, ça limite énormément la diversité d'opinions au sein d'une communauté, ça renforce les croyances existantes, et ça inhibe finalement la pensée critique. On parle aussi de chambre d'écho. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, les chambres d'écho, elles existent en ligne et hors ligne. Là, on sort de nos groupes vraiment de pairs embryonnaires, nucléaires, et on va vers le plus. On élargit en fait le groupe. Les chambres d'écho, c'est ce qui vient confirmer en fait nos pensées, nos avis, etc. Dans nos groupes de pairs, c'était on n'avait pas envie de s'écarter de ça parce que on n'a pas envie d'être exclu et voilà, inconsciemment on essaye de s'aligner sur tout ça. Les chambres d'écho, c'est nos pensées, on les valide parce qu'on ne fait que lire des choses qui font écho à ce qu'on pense déjà. En fait, c'est des chambres, des espaces où les individus s'entourent d'individus qui partagent les mêmes idées, qui renforcent leur opinion et croyances existantes. Et bien que chercher la validation des autres, comme je disais, c'est une tendance humaine naturelle, le pouvoir des chambres d'écho, là, réside dans leur capacité à renforcer et à amplifier les opinions. Donc ça aveugle souvent les individus sur des perspectives alternatives et ça entrave forcément la croissance d'une pensée et d'un esprit critique et d'une pensée diversifiée allant vers autre chose puisque nous n'avons pas les sources, les moyens, les ressources d'autres pensées. Donc on n'est pas exposé à ça. C'est pour ça qu'un des premiers conseils que je vais vous donner, c'est de suivre des gens qui parlent de tout et de rien. Moi, par exemple, quand il y avait le Covid, je suivais des gens pro-vax, contre-vax, j'écoutais les arguments de tous et on se confronte voilà, aux gens qui ne pensent pas forcément comme nous. C'est très important. Donc, on suit des gens de tous les bords politiques, d'un peu tous les secteurs, domaines, etc. parce que ça nous permet d'avoir des conceptions philosophiques, sociologiques, économiques. Voilà, par exemple, même en économie, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord, que ce soit sur le chômage, voilà, sur plein de choses. Sociologie, ben, je ne vous en parle pas. Ouais, donc voilà, c'est très très important. Et l'un des facteurs clés qui contribue justement à la puissance des chambres d'écho, eh ben, c'est l'exposition sélective. Et dans ça, c'est nous qui nous engageons en fait dans cette chambre d'écho. Donc il faut aller rechercher les informations. À l'ère du numérique, on a accès à énormément de choses. Le problème, c'est que les réseaux sociaux et les médias sont très très bien faits. Donc l'algorithme correspond totalement à nos préférences. Donc parfois, on ne sait pas où chercher. On nous montre que du contenu qui correspond à nos convictions. Et ça crée finalement une boucle de rétroaction dans laquelle nous, les utilisateurs, on va être continuellement exposés à des opinions qui renforcent nos croyances et on ne va pas être contestés en fait par des points de vue divergents, dissidents, etc. Donc ça aussi, c'est un problème quand on ne sait pas où chercher. Il faut essayer voilà, d'être proactif et de chercher ailleurs. Moi, par exemple, je fais souvent, je ne l'achète pas, mais souvent quand je vais aller feuilleter des magazines, je vais regarder des magazines de droite et tout, alors que bon, ici, on n'est pas à table, on peut parler de politique. Forcément, quelqu'un qui est animé par la sociologie n'est pas de droite. Donc voilà, je vais aller lire d'autres choses, je vais me renseigner, je vais voir, etc. Et puis, il y a des idées qui sont bonnes à prendre. Hein. C'est une grande tendance. Maintenant, on ne sait même plus si la droite, la gauche existe, etc. Moi, je suis pour l'égalité, la justice. Par exemple, j'ai une vision très nuancée de la méritocratie. Je ne pense pas qu'elle est totalement à rejeter. Je ne pense pas que c'est un mythe. Et je ne pense pas qu'elle est réelle non plus. Donc là aussi, on en parlera dans l'épisode 2 sur la vision binaire. Moi, j'ai une vision nuancée sur à peu près tout. À peu près tout. Il reste 2% des choses où on n'a pas de débat sur ce qui se passe, mais à peu près tout. Bref, on peut prendre comme exemple justement les chambres d'écho politiques. Dans le domaine politique, les individus qui s'identifient à un parti ou une idéologie particulière, peuvent choisir de s'entourer d'autres personnes partageant les mêmes idées. Donc on va consommer des informations provenant de sources qui correspondent à nos tendances politiques, on va suivre des personnes qui partagent les mêmes idées, on va s'engager dans des discussions au sein de groupes fermés, donc sans alternative, et où les perspectives d'ailleurs alternatives sont rarement les bienvenues. Ce renforcement des opinions politiques, il peut conduire réellement à une polarisation accrue de la société. En fait, c'est là qu'on voit des gens qui sont très extrêmes dans leur point de vue. C'est pour ça que sur Twitter, on va avoir vraiment des extrémismes de tous les côtés. Ça, pour moi, c'est un gros problème parce que justement, ce qu'on pense est confirmé par un tel, confirmé par un tel, confirmé par telle info, confirmé par tel truc. Et au final, on est vraiment extrême dans notre façon de penser. Donc finalement, c'est pour ça que l'épisode 2, il est essentiel, nécessaire. C'est que ce manque d'esprit critique, cette pensée rigide, le fait de croire à chaque fois que non, on a raison, c'est comme ça, fin de l'histoire, ça crée très souvent une vision binaire. C'est ça le problème. Et on ne dialogue plus en fait avec les gens parce que justement, on pense que tout est acquis et que nous avons raison à 100 000%. Et forcément, bah ça, c'est pas que dans la politique, c'est dans tous les domaines, les choix de vie, ces chambres d'écho, en fait, forcément, les individus y trouvent du réconfort. On y trouve du réconfort parce qu'on est entouré de gens qui valident, ça nous crée un sentiment d'appartenance, d'identité et tout. Et ça, moi, je le dis souvent, dans beaucoup, beaucoup d'extrémisme sur tous les sujets, c'est souvent une quête identitaire. Peu importe quoi, pour moi, il n'y a pas une véritable croyance en ce qu'on défend. C'est surtout pour appartenir à un groupe dans beaucoup de cas. Je n'ai pas de pourcentage, mais dans beaucoup de cas, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Ça forcément, bah, comme je disais, ça conduit à une fermeture d'esprit et c'est pour ça que ça résulte en fait sur de l'extrémisme et surtout en fait ça entrave complètement la croissance personnelle, le développement intellectuel et voilà. Les conseils pour éviter les chambres d'écho, en plus de ce que j'ai dit, forcément ça va être la recherche active de perspectives diverses, l'engagement dans des discussions respectueuses et ouvertes, et l'évaluation très critique de l'information qu'on consomme. Donc il y a ça aussi, il y a le fait de parler avec les gens et ne pas en fait être désagréable, être aigri, être fermé. Non, si tu viens poser une question à quelqu'un, c'est pour poser vraiment une question. Moi, le nombre de fois où on commente mes posts Instagram quand il y a quelque chose et en fait la personne elle dit j'ai une question, pourquoi si, pourquoi ça, haha. Mais en fait elle est méprisante et elle en a rien à faire de la réponse que je vais lui donner. Ça m'est déjà arrivé de passer en DM et de dire oui, coucou et tout, j'ai vu que tu avais une question sur telle chose, ben, en fait je t'explique et tout. Bon, très souvent, vous vous doutez bien, c'est des propos en général islamophobes qui rejettent en fait mon voile, par exemple. Donc, il y avait une personne qui me posait une question en commentaire et donc moi, je vais le voir en DM et tout. Et je lui dis, c'était un gars, et je lui dis oui, bah du coup, si tu veux, je peux te répondre. Tu m'as demandé pourquoi si, c'est pour telle raison. Il m'insulte direct, ni bonjour, ni rien. Bah, bien sûr, j'ai compris que la personne, elle ne veut pas discuter. Mais si une personne, elle est ouverte, bah, on peut essayer de se comprendre, on peut essayer de voir voilà, pourquoi toi, tu rejettes ça. C'est ce que c'est pour telle raison. Ah bah ça, je comprends, peut-être il y a de la peur et moi, je l'explique. Et voilà, on est respectueux, on est ouvert. Bien sûr, je ne serai jamais ouvert au racisme. Hein. Donc là, je parle de discussions extrêmes, très discriminantes. Mais voilà, si on redescend d'un cran, juste dans les incompréhensions et tout, voilà, ça peut nous permettre de favoriser finalement une société qui est plus inclusive. Et il y a beaucoup d'études de cas qui ont mis en évidence les effets très néfastes des chambres d'écho, surtout sur les processus décisionnels. On a une étude menée par l'Université du Michigan où il y avait des participants qui ont été divisés en deux groupes. L'un exposé à des articles de presse très équilibrés, couvrant souvent les deux côtés d'un sujet controversé, et l'autre exposé à des articles qui renforçaient leurs convictions existantes. L'étude, elle a révélé que les individus du groupe des chambres d'écho étaient moins disposés à considérer des points de vue alternatifs et présentaient un biais de confirmation plus fort dans leur prise de décision, peu importe quelle décision. Donc voilà, pendant des décennies, la recherche sur le biais de confirmation elle a montré qu'on est plus susceptible de regarder, remarquer et nous souvenir de tout ce qui confirme les opinions qu'on a déjà. Si, je pense pas que ça va être le cas de beaucoup de gens ici, mais si vous aimez boire du vin ou fumer, bah vous êtes plus susceptible de vous souvenir des études occasionnelles qui trouvent un avantage à l'alcool ou au tabac que la recherche sur ces risques. Bref, en résumé, par rapport à tout ce qu'on a dit. 1. On a peu de flexibilité concernant nos opinions, nos croyances, etc. 2. Ces derniers sont façonnés par un ensemble de choses et elles ne sont pas sujettes à évoluer énormément parce qu'on gravite dans peu de diversité et qu'on reste dans nos chambres d'écho, dans nos groupes de pairs. On sait scientifiquement que les gens ne se basent que peu sur les faits pour faire évoluer leur avis, sachez-le. C'est le sujet très intéressant du livre Factfulness que je vous conseille à 100%. En plus de ne pas faire évoluer nos impressions en fonction des faits, donc de la rationalité, on a ce qu'on appelle un biais de négativité, dont j'ai déjà parlé dans l'épisode « Percevoir sa lumière », donc qui traitait de spiritualité par rapport justement au fait qu'on amplifie en fait les expériences négatives et qu'on a tendance à s'en rappeler le plus souvent. Les études de psychologie cognitive et de neurosciences, elles ont montré, surtout en politique par exemple, que les gens se forment des opinions basées sur les émotions, telles que la peur, le mépris, la colère, plutôt que de s'appuyer sur des faits. Donc, les faits ne changent pas souvent la vie des gens. Bref, vous avez compris l'idée. Au lieu de réévaluer ce qu'ils ont cru jusqu'à présent, les gens ont tendance à rejeter les preuves incompatibles. Donc, les psychologues, ils appellent ça le phénomène de persévérance de la croyance. C'est aussi connu sous le nom de conservatisme conceptuel. On est dans les grands mots. Ça, en fait, c'est le maintien d'une croyance en dépit de nouvelles informations qui la contredisent fermement. Et ça, c'est un gros problème, surtout chez nos parents. Non mais alors là, c'est vraiment plus vieilli et j'espère que nous, on essaiera de faire un petit peu plus d'efforts. Et c'est aussi à nous de construire ça chez nos parents, de les faire évoluer. Il y avait Taïeb Chureff, donc qui est un professeur, qui disait une chose très importante. Il disait « on ne doit pas dire oui à nos parents en tout temps ». Il faut apprendre à leur dire non parce que justement, on est parfois et très souvent l'outil qui vont les détacher de cette rigidité et souvent de cet attachement à des choses débiles. Je ne sais pas moi si vos parents vous ont... Si vous avez des enfants, par exemple, qui vont dire oh non et tout, il faut lui donner un deuxième prénom, il faut que tu l'appelles comme un tel et qui s'attachent à ça et que ça leur fait trop plaisir et qui sont en mode vraiment déçu si tu le fais pas, ou par exemple une maman qui veut absolument que sa fille elle porte telle robe à un mariage. Maman, si tu passes par là, moi je me souviens, ça va, ma mère, elle est pas, enfin elle fait pas des histoires pour rien, mais elle était en mode, oh, je vais pas mettre genre cette robe là algéroise et tout, non mais je suis trop triste, je suis trop déçue et tout. J'étais en mode, maman, c'est une robe en fait, enfin il y a pas à se mettre dans des états pareils pour une robe, on s'en fiche complètement. Du coup, voilà, à nous de les faire redescendre sur terre. C'est pour ça que c'est important de ne pas être le béni oui-oui de sa famille. Non, être en contradiction avec ses parents, ça ne veut pas dire leur manquer de respect. Au contraire, ça peut les aider. Bref. Donc, on parlait de quoi? Ah oui, la persévérance de la croyance. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont parlé de ça, des philosophes, des psychologues, etc. Le philosophe Schiller, il estimait que la persévérance de la croyance méritait de figurer parmi les lois fondamentales de la nature, parce que justement, c'est des choses qui sont contraintes, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se discipliner pour s'en écarter. Donc voilà, il y a un autre biais cognitif qui peut vous embarder à changer d'avis, c'est la tendance aussi. Non, j'en ai déjà parlé. En fait, j'allais dire le biais de négativité. Mais oui, j'en ai déjà parlé. Désolée, je suis un peu fatiguée, malade, mais j'étais grave motivée à faire un podcast. Donc voilà, j'espère d'ailleurs que vous allez bien tous et que voilà, si vous êtes malade, j'espère que ça va aller mieux très très vite. Pour ceux qui n'ont pas compris, le biais de négativité, c'est le fait justement de sauvegarder dans notre tête les choses négatives. Et on a hérité ça de nos ancêtres. Hein, parce que bah, par exemple, tu manges une petite baie à un arbre et elle t'empoisonne. Je pense que tu préfères t'en rappeler pour pouvoir survivre. Voilà, je vous conseille par rapport au biais cognitif la série Crétin de cerveau sur YouTube. J'ai regardé ça, je pense, il y a 5-6 ans, si je dis pas, enfin en tout cas il y a quelques années. Et vraiment, elle était super parce qu'il cite plein d'études et ça nous permet d'avoir conscience que notre cerveau nous contrôle et qu'il faut le hacker en fait. Et ça nous permet de conscientiser pour pouvoir changer et ça va vous confronter à davantage de diversité si vous justement servez de tout ce qu'on a dit. Surtout qu'aujourd'hui, on ne pousse pas à développer notre esprit critique, surtout à l'école, alors que c'est l'endroit où justement on devrait le faire. On n'a pas de prise de recul, notamment à cause des tests standardisés. Maintenant, on a beaucoup de QCM, de questions-réponses, voilà, très basiques. Les étudiants que j'ai connus, que j'ai reconnus, que j'ai formés, que j'ai aidés dans le cadre de mon association ou dans le cadre de mes coachings, etc., ont très peu de capacité à problématiser, à essayer d'apporter de la nuance, à voilà, toutes ces choses-là. Nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris en prépa pour le coup. Donc, on essaye de sortir quand on est en classe prépa de cette vision un peu robotisée et on nous pousse, pousse, pousse dans nos retranchements à défendre justement des points de vue différents, que ce soit en philo, en disserte, en littérature, en éco et tout. On va toujours essayer de, voilà, comme en concours un peu d'éloquence, de nous faire défendre différents points de vue, et ça, c'est très très important. Donc voilà, c'est un résultat malheureux, je trouve, de l'approche standardisée de l'apprentissage, parce que elle n'encourage pas les gens à accorder de l'importance à leur pensée. Ça, c'est dommage, et je sais aussi que c'est parce qu'on n'a pas trop le temps, qu'à l'école ça va vite et tout. Donc, c'est ça le problème. Étant donné que les compétences de pensée et d'esprit critique sont affaiblies, voire pas développées, bah, parfois on va pas essayer de voir les problèmes objectivement. Donc, tout ça repose pas forcément sur nos épaules. On n'en a pas l'entière responsabilité, mais maintenant qu'on le sait, et ben, il faut essayer de s'en servir. Maintenant, l'esprit critique, ça consiste pas à être constamment négatif ou critique sur tout. C'est de l'objectivité, c'est juste avoir un esprit ouvert et curieux. Penser de manière critique, c'est analyser les questions basées sur des preuves tangibles, par opposition justement aux opinions personnelles, aux préjugés, etc., afin de construire justement une compréhension approfondie de ce qui se passe réellement. Et à partir de cette compréhension approfondie, on peut prendre des meilleures décisions, on peut résoudre les problèmes plus efficacement, on peut être plus empathique, plus tolérant, etc. Donc finalement, voilà, c'est juste avoir ses propres conclusions, soigneusement réfléchies, et de savoir que ces conclusions-là ne sont pas du tout immobiles, qu'elles sont complètement mobiles, qu'elles sont nuancées, et qu'il y a aussi des choses qu'on ignore. En fait, il faut se dire, je suis arrivée à cet avis-là avec les choses que j'ai apprises, ça ne veut pas dire que je connais tout et ces choses-là peuvent être sujettes à être totalement nuancées si on m'apporte de nouvelles infos, si j'en trouve. Donc voilà, mon conseil, c'est être humble, laisser la place aux gens pour s'exprimer, ne pas penser que quelqu'un ne peut pas vous apprendre quelque chose parce qu'il est plus jeune, différent, moins compétent, etc. Pas du tout. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de vous positionner. Conscientisez que beaucoup de sujets ne sont pas noirs ou blancs, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis, et que tous les côtés d'un problème, d'une thématique, peuvent avoir une argumentation. Donc il faut s'entraîner aussi à défendre des points de vue qu'on ne partage pas. Moi, je le fais tout le temps avec ma sœur. Je vais lui dire un avis, elle va me contre-argumenter pendant une heure, et au final, elle va me dire... Mais tu sais, j'étais d'accord avec toi, hein, c'est juste j'ergote, voilà, j'aime bien défendre des autres points de vue. Et moi, je fais pareil avec elle et tout. Bref. Dans le prochain épisode, on parlera du coup d'un problème sous-jacent à ça, comme je disais, la pensée binaire, le manque de nuances. On va finir par une petite citation, c'est Bob Johansson qui disait « Les catégories nous déplacent vers la certitude, mais loin de la clarté. » Le fait de catégoriser toutes les choses, de les mettre dans des boîtes, voilà, ça c'est noir, ça c'est blanc. Forcément, c'est pas très pertinent. Et c'est dans un livre qui est très cool, qui s'appelle Full Spectrum Thinking. Très très cool. Je sais que j'ai d'autres livres à vous conseiller, il faudrait que je les retrouve, mais on avait Le Signe Noir, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Attendez, je cherche. Ajoutez à votre Le Signe Noir. Le Signe Noir, Le Signe Noir. Il me semble que ça s'appelle comme ça, La Puissance de l'Imprévisible. Nassim Taleb. Oui, c'était ça, il me semble. Je sais plus si c'est Le Signe Noir ou non. En fait, je crois que je confonds, c'est système 1, système 2, je crois. Système 1, système 2. Déjà, lu, c'est en direct. Système 1, système 2. Bon, ce livre est incroyable, c'est Les deux vitesses de la pensée. Donc, déjà, il est bien. Ensuite, Le Signe Noir, je sais qu'il était aussi très très bien. Et si vous me laissez 2 secondes et vous réfléchissez un peu. En fait, j'aime pas mettre pause dans mes podcasts. Moi, je suis très. Voilà. Vous réfléchissez un peu à ce qu'on a dit et puis dites-moi comment s'est passée votre semaine. On n'est pas en live, mais essayez de m'envoyer un petit message. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre 5 étoiles sur le podcast, à m'envoyer des messages sur Instagram. Mon Instagram, c'est agnia.tairi. Et à me donner vos feedbacks et tout. Moi, ça sera un plaisir de lire ce que vous me dites et d'essayer d'en discuter et tout. Ça peut être très, très cool. Du coup, alors les livres que je vous conseille... Ce que je les avais noté, Comment déjouer les pièges de l'information de Henri Broche, Santé, science, doit-on tout gober de Florian Gouttière, Manuel d'autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet, Petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Béliargeon. Et d'ailleurs, celui-là, là, le petit cours d'autodéfense, c'est une très bonne initiation à la pensée critique parce que l'auteur, il nous dit que. Les outils fondamentaux qu'on doit maîtriser et que tout penseur critique doit maîtriser, c'est le langage, la logique, la rhétorique, les nombres, les probabilités et la statistique. Et ceux-là, tous ces outils-là, ils vont être ensuite employés à la justification des croyances dans 3 domaines. L'expérience personnelle, avec les modèles de représentation limités. La science, donc toujours avec la posture du doute, de l'ignorance, pour chercher des réponses à travers une méthode. Et les médias. Donc, qui sont totalement un instrument de peur, souvent par nécessité économique, vecteur de propagande, etc. Et après, il y a tous les livres de Noam Chomsky que je vous conseille, mais clairement tous. Il disait, si nous avions un vrai système d'éducation, on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle, très intéressant. Et du coup, j'ai retrouvé les livres, c'est bien Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, prix Nobel de l'économie en 2022. Pour comprendre les heuristiques, c'est les raccourcis mentaux. J'aime bien les mots jolis comme ça. Et les biais cognitifs, donc c'est un ouvrage très complet. Et Le Signe Noir de Nassim Taleb, qui est un ancien trader reconverti dans la philosophie pour faire un meilleur usage de son ignorance. Et après cette lecture-là, je pense que vous ne verrez plus jamais un signe de la même façon. Donc ça, c'est des livres très 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 intéressants. Voilà. Je pense que je vous ferai un petit résumé dans l'épisode 2 de comment développer un esprit critique. Si vous n'avez pas encore tout assimilé et que vous avez envie d'avoir d'autres techniques. Donc voilà. Voilà, voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée selon votre fuseau horaire et à plus.